L'émission de littérature le premier mercredi de chaque mois sur Radio Campus Orléans, avec ce soir en direct par téléphone Bernard Stiegler. Merci beaucoup Bernard Stiegler d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler donc du design de nos existences à l'époque de l'innovation ascendante. Avec ce livre, le lecteur peut se rendre compte d'une autre partie de vos activités, celle de l'IRI, de l'Institut de Recherche et d'Innovation que vous avez créé. Alors avec ces entretiens du nouveau monde industriel, est-ce une manière de continuer l'action entreprise avec Ars Industrialis ?
Bah, disons que je suis la même personne à l'Institut de Recherche et d'Innovation et Ars Industrialis, j'ai les mêmes convictions. Et en effet, de toute façon, je mène mon existence toujours avec les mêmes buts qui sont aujourd'hui de servir autant que possible le monde dans lequel je vis pour essayer d'y apporter les transformations que je crois indispensables. Alors recherche et innovation, bah, c'est précisément en principe consacré aussi à la transformation du réel. À l'IRI, qui est donc une association attachée au Centre Pompidou, nous travaillons essentiellement sur les technologies culturelles, ce que nous appelons les technologies culturelles, qui sont apparues avec la numérisation, les réseaux, ce que j'appelle maintenant la réticularité numérique, qui est de plus en plus importante, qui nous suit partout, qui est de plus en plus pratiquée par beaucoup évidemment par les jeunes générations, mais aussi beaucoup par les gens, par exemple, qui sont en retraite. Et puis par tout le monde également dans les milieux de travail, de près ou de loin. Donc c'est une transformation de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, des loisirs, de la vie intellectuelle, de la vie amoureuse même, très 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 profonde, très rapide aussi, spectaculaire même. Quand on voit la croissance de YouTube, de Facebook, de ne serait-ce que d'Internet d'ailleurs, qui, il faut pas l'oublier, il y a 15 ans n'existait pratiquement pas. Et qui aujourd'hui atteint pratiquement la moitié de la planète, mais presque, c'est quelque chose de vertigineux, cette évolution. Alors, à l'IRI, nous travaillons surtout avec une hypothèse, qui est que dans les grands établissements culturels, comme est le Centre Georges Pompidou, ou le Musée du Louvre, ou des lieux comme cela, s'est installée une situation que j'appelle moi de consumérisme culturel, où les gens ont progressivement intériorisé les habitudes comportementales produites, provoquées par les industries culturelles, c'est-à-dire l'habitude de la consommation. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Les gens qui fréquentaient les musées ne venaient pas pour consommer les œuvres, parce que tout simplement ils savaient très bien qu'une œuvre, ça ne se consomme pas. Ça se fréquente, ça s'observe, ça s'admire, ça demande beaucoup de temps. Le grand historien de l'art, Daniel Arras, disait qu'il a fallu 20 ans pour arriver à voir la Joconde. Eh bien, il y a 3 ans et demi ou 4 ans, un colloque qui était organisé au Musée du Louvre constatait que les visiteurs du Musée du Louvre passent en moyenne 42 secondes par œuvre. Et j'ai d'ailleurs eu une conversation tout à l'heure avec quelqu'un qui m'a appris que le temps passé par les touristes chinois au Musée du Louvre est de 15 minutes. Voilà, dans des conditions comme celle-là, il y a quelque chose de préoccupant qui se joue, qui est que on se demande d'abord pourquoi les gens vont dans les musées, est-ce qu'ils viennent y chercher, parce que en fait ils viennent y chercher non pas une expérience esthétique, mais un parcours touristique qu'ils commettent, qu'ils produisent de manière un petit peu aveugle et téléguidée, télécommandée par le marketing des tour opérateurs. Et nous en sommes tous là, hein. Quand je dis ça, je ne m'en prends pas simplement aux touristes chinois ou aux provinciaux qui viennent visiter Paris, mais moi-même, je suis comme ça. Nous sommes tous conditionnés par cette situation de consumérisme généralisé. Et c'est très, très préjudiciable à notre existence dans bien des domaines, mais notamment dans le domaine de la culture, c'est totalement impossible. On ne peut pas consommer la culture. Alors, ce que nous croyons à l'IRI, c'est qu'il est tout à fait possible de changer cette situation, et en particulier de tirer parti des technologies culturelles numériques dont la jeunesse s'en parle beaucoup, et qui sont caractérisées, ces technologies culturelles, par le fait que, en tout cas dans le domaine les espaces numériques comme Internet et tous les objets Internet qui y sont liés maintenant, les objets communicants, etc., on voit se développer des pratiques qui ne sont plus des pratiques de consommation, qui sont des pratiques qu'on appelle parfois participatives ou collaboratives, qu'on appelle moins contributives. Et ce que nous croyons, c'est que cette évolution qui se produit dans le domaine culturel beaucoup, elle a commencé d'ailleurs par la musique, maintenant elle se développe beaucoup dans le domaine de la vidéo, elle va affecter le cinéma très bientôt, elle se développe aussi dans le domaine de la littérature, de l'écriture, de la lecture, pas forcément de la grande littérature, mais de pratiques d'écriture, ça c'est très intéressant. Eh bien nous pensons qu'elle préfigure en fait des changements comportementaux qui vont concerner bien d'autres domaines que celui de la culture. Et c'est pour ça que nous nous sommes rapprochés, également pour d'autres raisons, parce que l'Institut de Recherche et Innovation, c'est un lieu où on développe des technologies informatiques, des technologies de télécommunication, des technologies web. Donc ici, moi j'encadre des ingénieurs, beaucoup, pas seulement, des artistes aussi, des philosophes, des chercheurs, des universitaires qui viennent en résidence travailler avec nous sur ces sujets. Mais nous pensons que le monde culturel va être de plus en plus... l'avant-garde de comportements qui vont affecter tout le monde industriel. Et c'est pour ça que nous avons monté ces entretiens de nouveau monde industriel avec des industriels, en particulier avec le pôle de compétitivité Cap Digital de la région Île-de-France qui rassemble 400 entreprises dont certaines sont très très importantes comme Orange, dont d'autres sont des PME, voire des TPE, des petites entreprises de ce qu'on appelle des start-up dans le domaine des technologies numériques, dans ce qu'on appelle le quartier du sentier numérique à Paris en particulier, qui est une espèce de... on appelle parfois le Silicon Sentier, la région des entreprises qui travaillent beaucoup dans ces technologies numériques. Et nous faisons avec eux et avec l'École nationale supérieure de création industrielle, qui est en fait une école de design, nous avons décidé d'organiser ces entretiens mouvement industriel, un petit peu dans l'esprit où on parle des entretiens de Bichat. C'est-à-dire que nous pensons que le monde industriel est en pleine mutation, qu'il faut observer cette mutation de près, faire une veille internationale, annuelle, pour faire le point, le bilan de l'évolution du malade. J'ai dit malade parce que c'est aussi une maladie, cette mutation dont elle est le symptôme. Nous l'avons vu au mois d'octobre 2008. Nous disons, alors moi je le dis depuis des années dans mes livres, dans ces entretiens, nous sommes tous d'accord pour dire que le modèle industriel tel qu'on l'a connu au XXe siècle, qui repose sur le consumérisme, sur une certaine organisation descendante de la production, etc., est caduque, qui ne peut pas durer longtemps, qu'il va s'effondrer. Nous disions cela au futur jusqu'au mois d'octobre 2008. Maintenant nous le disons au passé parce qu'il s'est effondré. Parce que l'effondrement de General Motors, qui a perdu 33% de sa valeur en une seule journée le 10 octobre 2008, la baisse de la valeur considérable de Ford, qui a été quand même la grande industrie automobile américaine qui a inventé le modèle consumériste de la Ford T, et tout ce qu'on appelle le Fordisme, qui était le modèle qui a configuré toute l'industrie mondiale du XXe siècle, Chrysler, qui a été une très grande marque américaine de voitures, mais ce sont trois entreprises en faillite. Et elles sont en faillite parce que elles n'ont pas vu venir, c'est pas moi qui le dis, c'était dit par un article du journal Le Monde du 24 novembre dernier, elles n'ont pas vu venir la nécessité de changer de modèle industriel. Donc voilà, je m'enorgueillis de considérer que nous avons été en avance sur le réel. Et si nous faisons cela au Centre Pompidou, c'est parce que le Centre Pompidou, eh bien ça a été, c'était la volonté du président Georges Pompidou, au départ... un lieu où on réfléchit, on présente des œuvres d'art, bien entendu, mais aussi on réfléchit, et en particulier on réfléchit à la société industrielle, à la modernité, à la modernisation. Il fut un temps où au Centre Pompidou, il y avait un département qui s'appelait le Centre de création industrielle qui réfléchissait à toutes ces questions. Nous essayons de reprendre cette tradition, ce flambeau dont nous pensons qu'il est très très important de l'animer du point de vue des problématiques qui sont celles du Centre Pompidou, c'est-à-dire en relation étroite avec la création artistique, avec la création musicale, littéraire, avec la pensée philosophique, avec le design, etc. Voilà.
Alors justement, le design de nos existences. Alors vous dites que le design est pour une large part inscrit dans la mise en place, dans le capitalisme industriel, de la figure du consommateur. Comment le design en tant qu'élément du capitalisme industriel, va-t-il pouvoir faire émerger la figure de l'amateur à la place de celle du consommateur?
Alors, je dirais d'ailleurs plutôt du contributeur que de l'amateur, parce que pour moi, la figure émergente du nouveau monde industriel, c'est la figure du contributeur, l'amateur étant un cas particulier du contributeur. L'amateur, c'est un contributeur très exigeant et qui, je dirais, plutôt dans le domaine précisément des choses de l'esprit, de l'art, de la culture, de la science, etc. Et il y a une catégorie plus englobante, dont l'amateur est donc un cas spécifique, qui est le contributeur. Par exemple, les gens qui participent à l'évolution des logiciels libres, on n'est pas obligé de les appeler des amateurs, mais en tout cas, ce sont clairement des contributeurs. Alors, sur le design et la société industrielle du XXe siècle. D'abord, il faut souligner qu'un des premiers industriels à avoir introduit le design dans l'industrie, c'est Henry Ford, précisément, le fameux concepteur de la Ford T. Le design est apparu au même moment que le cinéma devenait hollywoodien et que les industries culturelles américaines commençaient à se préoccuper de mettre en œuvre une iconologie, si je puis dire, une représentation, un imaginaire de ce qu'ils ont appelé « the American way of life », c'est-à-dire le nouveau mode de vie américain qui était la mode de la consommation. Et pour cela, pour que ce mode de vie se développât, il a fallu développer des techniques de captation de l'attention, du désir des individus, parce que le problème très très important auquel était risqué d'être confronté ce nouveau capitalisme, c'était la surproduction, ce qui est d'ailleurs arrivé, comme vous le savez, avec la Grande Dépression des années 1930. Il faut savoir qu'entre 1908 et 1914, la production des Ford T passe de quelques milliers d'exemplaires à 250 000 exemplaires en moins de 6 ans. Donc, c'est un énorme processus de mutation, comment dire, commerciale, industrielle, etc., qui suppose un travail de la société au corps pour qu'elle achète tout ça, qu'elle s'endette, etc. Tout ça, d'ailleurs, s'effondrant 100 ans exactement plus tard avec la crise des subprimes, c'est-à-dire avec le problème d'un endettement délirant. Et pendant ce temps-là, le design commence à apparaître, et par exemple, dans ce livre, Le design de nos existences, nous mettons en évidence que le moment où Edward Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud, un théoricien de l'utilisation de la théorie de l'inconscient et du fantasme de que Freud, son oncle, avait donc mis en œuvre, en pratique thérapeutique, lui, il l'appliquait à l'invention de ce qu'il appelait les public relations, qui sont devenus ensuite le marketing. Et au moment où Edward Bernays, dans les années 20, systématisait la mise en œuvre de cette théorie psychanalytique pour la manipulation du désir des consommateurs, eh bien, en Allemagne, dans le Bauhaus, Paul Klee et tant d'autres se retrouvaient pour mettre en œuvre une nouvelle articulation entre l'industrie et l'art, et développer alors là une très grande école de design extrêmement connue, bien entendu, qui est en quelque sorte la base, le fondement artistique du design du XXe siècle. Cela dit, donc votre question était comment un design qui a été mis en œuvre finalement majoritairement au service de la consommation peut-il devenir un design de la contribution? Eh bien, c'est exactement la question à laquelle nous voulons répondre dans ce livre. Et notre réponse est grosso modo la suivante. Ce design du XXe siècle s'est développé à l'intérieur d'une séquence descendante, d'une séquence de spécialisation du travail industriel qui consistait dans le fait qu'il y avait de la recherche industrielle qui ensuite transférait vers du développement industriel qui passait par le marketing. Le marketing était designé, ce design était ensuite distribué, puis cette distribution consommée. Bon, c'était une logique absolument descendante, où il n'y avait aucun retour de la part des consommateurs vers les producteurs, puisque la règle de cette organisation industrielle de la société consumériste, c'était que précisément les consommateurs n'aient rien à dire sur la production. Et c'était une logique, si vous voulez, qui consistait essentiellement à séparer et à même opposer production et consommation. Et ça induisait de la part progressivement, pour les consommateurs, ça induisait progressivement une situation qui est arrivée à son extrémité à la fin du XXe siècle et qui a produit ce que Benjamin Barber, qui est un chercheur américain, a appelé l'infantilisation du capitalisme, par le capitalisme. Parce que, pourquoi infantilisation? Parce qu'un consommateur, c'est quelqu'un qui petit à petit perd toute responsabilité dans son existence, il n'a plus qu'à consommer avec son pouvoir d'achat, il ne sait plus rien faire, il ne décide plus de rien, il vit dans un monde qu'il subit, purement et simplement, et auquel il ne participe plus parce que dans son travail, il est de plus en plus prolétarisé. Prolétarisé voulant dire que, non pas forcément qu'est un ouvrier pauvre et paupérisé, ça c'est un cliché sur la prolétarisation. Prolétarisé, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire tout simplement qu'on a perdu les savoir-faire du monde dans lequel on vit et que du coup, on ne participe plus de la production de ce monde. C'est comme ça que Marx définissait le prolétariat dans le manifeste du Parti communiste en disant que les prolétaires, c'était ceux dont le savoir-faire était passé dans les machines. Aujourd'hui, c'est pas dans les machines que ça passe simplement, c'est dans les ordinateurs, c'est dans les systèmes automatisés, etc., etc., dans toutes sortes de domaines, y compris la médecine. Alors, comment est-ce que le design peut se transformer et rentrer dans une autre logique? Ben, cette autre logique, d'abord, il faut la préciser, c'est ce qu'on appelle, nous, l'innovation ascendante. Parce qu'avec l'apparition des technologies collaboratives, des réseaux de contribution, de ce qu'on appelle le Web 2, l'apparition de maintenant... ce sur quoi nous travaillons à l'IRI d'ailleurs, qu'on appelle le Web3, eh bien, on a affaire à des processus nouveaux d'innovation qu'on appelle donc l'innovation ascendante, où de plus en plus, c'est particulièrement vrai évidemment dans le logiciel libre, ce sont les praticiens, qui ne sont plus vraiment des consommateurs, qui sont même plus seulement des utilisateurs, qui font évoluer les produits, qui participent à leur transformation, et qui du coup, si j'employais un mot que je prends de Gilbert Simondon, qui serait individu, c'est-à-dire qui retrouve une existence, un rôle, une responsabilité, une compréhension du monde dans lequel ils vivent, etc. Et ça se développe dans énormément de domaines. Les plus connus sont évidemment le logiciel libre, Wikipédia et des choses comme ça, mais il y en a des formes extraordinairement variées, parfois microscopiques, mais extrêmement intéressantes. Et alors, quel est le rôle du designer dans un monde comme celui-là? Parce qu'on pourrait dire qu'il n'a peut-être plus vraiment de place. Eh bien, on se tromperait. Au contraire, il a une place très importante, mais sa place, elle va être de designer de l'intelligence collective, de concevoir des instruments et des dispositifs techniques qui soient ouverts à ce qu'on appelle du co-développement, du co-design, et de créer des groupes de contributeurs, d'animer des groupes de contribution, de susciter des processus de contribution par toutes sortes de démarches, qui peuvent être des démarches d'interface, qui peuvent être des démarches d'organisation de réseau, etc. Mais c'est évidemment une grande mutation dans le monde du design. Voilà.
Alors, tout à l'heure, vous avez abordé très rapidement, très justement, la question de la littérature. Vous avez parlé, bien sûr, de que tous ces changements avaient déjà beaucoup influé sur la réception de la musique. Mm-hmm. Vous avez parlé du cinéma. Faisons un peu de prospective. Quels impacts tous ces changements-là qui nous arrivent, le Web 3, l'innovation ascendante, quels impacts tout cela va pouvoir avoir sur la pratique de la littérature?
Très difficile de le dire, parce que...
Essayez de nous donner quelques petites pistes comme ça.
C'est proliférant ce qui se passe. Hein. C'est proliférant. Alors d'abord, ça, on sait déjà, vous connaissez bien, pas très loin de chez vous, il y a François Bon qui a monté Remunet.
Voilà, et Publi.net.
Et qui fait beaucoup de choses. Et il y a une vie littéraire sur le réseau Internet qui est maintenant très importante, grâce à des gens comme François Bon et quelques autres. Donc ça, c'est une chose. Alors, je dirais que c'est une certaine manière, des nouvelles façons de concevoir des revues littéraires, des choses comme ça. Bon. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Alors moi, je commencerai par dire que je crois que c'est les modes, les façons de lire qui sont amenées à évoluer, les façons de lire et les façons de partager des lectures. Et personnellement, je crois, alors depuis très longtemps, que l'écriture doit se penser à partir de la lecture. Moi, par exemple, quand j'essaye de comprendre comment travaille Marcel Proust, ou comment je travaille moi-même, je ne compare pas à Proust, loin de là, mais j'écris beaucoup, j'écris plusieurs livres par an, et donc je passe tous les jours, je pratique l'écriture. Dans cette démarche d'écriture, eh bien, je passe des heures à me lire, à me relire, à me re-relire. Je suis d'abord un lecteur de moi-même, et plus je me lis, et moins c'est moi-même que je lis. Et c'est un texte que je lis, qui m'appartient de moins en moins, ce que Maurice Blanchot a si merveilleusement décrit dans l'espace littéraire. Et je pense que un des aspects très importants de ce qui se passe sur le réseau, bah c'est de l'écriture qui est souvent liée à de la lecture ou à de la réaction à des choses lues. Typiquement, ce qu'on voit, par exemple, sur les réseaux, les journaux en ligne maintenant, Le Monde, Mediapart, etc., où on voit que les réactions de lecteurs qui se mettaient à écrire finalement pour réagir. Bon, ça c'est une première chose. Après, évidemment, en termes d'écriture en tant que telle, on peut imaginer toutes sortes de choses. D'abord, le fait, moi j'y pense de plus en plus, que vous savez bien que l'éditeur n'aime pas beaucoup recevoir des pavés de 500 pages parce que c'est très dur à vendre, tout simplement, ça coûte cher et les gens ne les achètent pas, ou les achètent moins en tout cas. Mais on peut imaginer de faire des petits livres de 200 pages. Là, je parle plutôt pour la philosophie, c'est peut-être moins évident pour la littérature, encore que je suis absolument certain qu'il y a des tas d'expériences littéraires à faire de ce type, comme un peu Alain René en fait parfois au cinéma. Quand il fait Smoking, No Smoking, il fait des expériences comme ça, des dispositifs nouveaux. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire de ce type-là. Il y a évidemment aussi énormément de choses à imaginer du côté de l'écriture collective. Vous savez bien que, et ça croise un petit peu les choses dont je parlais auparavant, vous savez bien que les ateliers d'écriture se développent énormément, qu'il y a des façons d'écrire individuellement et collectivement qui se développent. François Bon, dont je parlais tout à l'heure, justement, est quelqu'un qui est beaucoup qui articule beaucoup son travail personnel avec de tels ateliers d'écriture. Bon, il est évident que la numérisation ouvre des possibilités extraordinaires dans ces domaines et qu'on n'a encore rien vu, à mon avis. Après, il y a aussi des choses très importantes que j'espère d'ailleurs exploiter personnellement dans pas trop longtemps, à faire entre les images et l'écriture. Moi, depuis peu de temps, depuis que l'année dernière à Chicago, j'ai acheté un appareil photo comme ça parce que le cours du dollar est tellement intéressant que j'ai acheté un très très bon appareil pour des clous, un appareil numérique. Et depuis, je fais énormément de photos. Mais je me considère pas du tout comme un photographe. Mais en revanche, je fais ces photos dans l'esprit de commencer à écrire en regardant ces photos. Et de mettre tout ça en ligne à un moment donné sur le réseau. Voilà. Bon, mais ce sont des évocations, des possibilités parmi bien d'autres auxquelles je n'ai pas beaucoup réfléchi.
Mais ça donne quelques pistes, quelques lignes. J'aimerais pour une prochaine question envisager votre manière d'envisager le futur et de revenir sur cette discipline philosophique qui est la vôtre. Le rôle du philosophe est-il de s'impliquer dans le futur comme vous faites par exemple? Est-ce qu'il peut le faire sans se tromper? Enfin, quel est le risque pour le philosophe que vous êtes de travailler ainsi sur le futur?
Bon, alors moi d'abord je suis un philosophe, mais comme tout le monde je suis aussi un citoyen. Il se trouve que je considère que les philosophes ce sont des citoyens qui cherchent à être en quelque sorte à faire de la citoyenneté une sorte de métier sans être des hommes politiques. Mais quand je m'implique dans le futur comme vous le dites, ça peut être en tant que citoyen plutôt qu'en tant que philosophe.
Mais en même temps, vos concepts philosophiques, ils sont.
Oui, oui. Mais alors, moi, je ne crois pas à la prospective je ne crois pas que, qu'il soit possible de... Enfin, quand je dis que je ne crois pas à la prophétie, j'exagère. Disons que je ne crois pas à la futurologie, je ne crois pas qu'il soit possible de prédire ce qui va arriver. En revanche, je crois qu'il est possible d'identifier des tendances. Vous savez, un jour, le roi Gouran, j'ai découvert un... le roi Gouran qui a été pour moi un apport intellectuel extrêmement important. Et j'ai découvert dans un livre de roi Gouran une situation de Cuvier qui explique qu'il est capable de prédire, il est en train de sortir d'un bloc de gypse un fossile de squelette d'un lémurien, et il est d'un lémurien qui n'existe plus, mais qui a existé il y a fort longtemps. Il fait donc de la paléontologie. Il explique que ce qui va sortir du bloc de gypse qui est encore caché, il explique ça à ses collègues, ça aura telle forme, etc. Et il a raison. Pourquoi ? C'est parce qu'il a une approche systémique qui repose sur la formalisation conceptuelle de ce que le roi Gouran appelle des tendances. Un concept qu'il reprend d'ailleurs à Bergson. Bien, moi, je pense qu'il y a dans la vie des tendances. Dans le domaine biologique, il y a des tendances. Alors, par exemple, le roi Gouran vous explique qu'on peut, prédire des évolutions des espèces au niveau des grandes tendances. Mais on ne peut pas prédire précisément comment ces tendances se réaliseront. Ça, c'est ce qu'il appelle les faits. Et le roi Gouran dit l'erreur, c'est toujours de confondre les faits et les tendances. Alors moi, je crois que les philosophes ont une responsabilité d'identification de tendances. Pas simplement au niveau technologique ou scientifique, etc., mais au niveau de l'évolution des formes sociales. Maintenant, je pense que la tâche des philosophes, elle est surtout d'identifier ces tendances à partir de ce que j'appelle une analyse pharmacologique, finalement, de la technique. Car je crois que ce qui fait les questions humaines, c'est la technique. Ce qui fait que l'être humain est un être humain, c'est-à-dire qu'il a une certaine liberté d'existence qui n'est pas ouverte aux animaux. Les animaux sont enfermés dans leur destin d'animaux. Les êtres humains, eux, peuvent transformer le monde qui les entoure et se transforment eux-mêmes par la même occasion. Cette liberté qui leur est donnée, qui parfois d'ailleurs apparaît comme une fatalité, parce qu'ils ont aussi la liberté de faire à Auschwitz, ou d'envahir Gaza et de massacrer les enfants palestiniens, de tirer sur des écoles, ce qui est une honte absolument scandaleuse, et il faut se mobiliser contre ça, et condamner l'État d'Israël pour les crimes qu'il est en train de commettre, en ce moment même. Eh bien, l'homme peut faire cela, des crimes comme le fait Israël, et comme bien d'autres l'ont fait avant lui, mais il peut aussi faire beaucoup mieux. Il peut essayer de lutter contre ces crimes, par exemple, ou d'améliorer le monde. Et par rapport à cela, moi je crois que la place des philosophes, ça n'est pas de donner des leçons aux autres, c'est de faire ce que j'appelle de la pharmacologie, parce que tout ça est lié à la technique. Et la technique, je crois, comme Derrida l'a montré en s'appuyant sur les textes de Platon, qu'elle est pharmacologique, c'est-à-dire qu'elle peut produire, comme toute drogue, pharmacon en grec ça veut dire drogue, elle peut servir à soigner des maux, c'est-à-dire à apporter des solutions à des problèmes, mais elle peut aussi empoisonner, et elle peut intoxiquer les gens. Et donc moi je crois que les philosophes doivent être des pharmacologues, et que ces pharmacologues doivent donner des éléments de réflexion aux citoyens que eux-mêmes sont aussi par ailleurs, et ils peuvent se confondre, citoyens et philosophes bien entendu, pour que ceux-ci, les citoyens, à travers leurs représentants politiques, à travers leurs actions, puissent développer ce que j'appelle les thérapeutiques. Mais oui, je crois qu'il faut prendre le risque quand on est philosophe, cela étant donc de dire les choses sur le futur, et surtout quand on est dans une période comme celle dans laquelle nous vivons. La période dans laquelle nous vivons, il faut appeler à chat, c'est une période révolutionnaire. Pourquoi est-elle révolutionnaire? Non pas, comme le croit M. Besancenot, parce qu'il faut amener dans la rue de nouveaux sans-culottes ou de nouveaux bolcheviques, mais peut-être qu'il le faut, mais c'est pas pour ça que je dirais que la période est révolutionnaire. Moi, je doute que ce soit ça qu'il faille faire. Je crois qu'en revanche, elle est révolutionnaire parce que quelque chose est révolu. Et je pense que le monde philosophique, le monde de la pensée, plus généralement le monde artistique aussi, le monde scientifique, le monde juridique même, c'est un monde qui doit toujours être capable d'anticiper sur le présent pour pouvoir le transformer. Car finalement, ce que fait avant tout un être créatif, c'est de transformer le monde. Mais pour le transformer, c'est qu'il veuille, il faut qu'il soit capable de vouloir quelque chose qui n'existe pas encore, donc qu'il soit capable de voir un futur, de l'imaginer, finalement, de le concrétiser. Pour moi, c'est ça, la philosophie. La philosophie, c'est pas du tout aller faire des cours à la Sorbonne. C'est du fonctionnariat de l'histoire de la philosophie. Pourquoi ne pas le faire, justement, aussi, des choses comme ça. Mais c'est très bien. Mais c'est pas ça, la philosophie. La philosophie, ça consiste essentiellement à prendre des risques. Ça a été le cas de Platon. Hein. Il a failli mourir. Le tyran de Syracuse, Denis, a voulu l'assassiner. Bon, il a été emprisonné. Il s'est évadé. Socrate est mort. Il a été exécuté, condamné à mort. Il a bu la figure. Giordano Bruno a été brûlé vif. Alain Cavaillès est mort fusillé par les nazis. Tous ces gens-là, c'était des gens qui avaient une conception de la philosophie qui est la mienne. À savoir, la philosophie, c'est un combat. C'est un combat pour l'avenir.
Voilà, c'est exactement ce que vous dites dans Réenchanter le monde qui est paru au mois d'octobre, là, en chant, donc en poche. Vous dites la philosophie doit mener un nouveau combat. Vous avez des propos forts. Vous dites trouver les nouvelles armes philosophiques pour ce combat politique, pour inventer les actions politiques. Et en même temps, c'est assez curieux, j'aimerais vous interroger là-dessus, parce que vous n'êtes pas considéré comme un philosophe directement politique, comme l'aide par exemple Jacques Rancière ou Alain Badiou. Et votre manière de faire de la politique, elle est différente. Et j'aimerais vous interroger là-dessus, justement.
Oui, elle est très différente, parce que d'abord, je pense que la manière dont Rancière et Badiou... Badiou, j'admire beaucoup, hein, Rancière un peu moins. C'est une façon totalement surannée de faire de la philosophie politique. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il répète la même chose depuis 30 ans. Et pour Badiou, parce que Rancière, lui, ne parle carrément plus de politique, il ne parle plus que d'art et de cinéma, mais il parle un peu de la démocratie, mais il a à peu près renoncé à tout ce qu'il pouvait faire quand il bossait, quand il travaillait avec Louis Althusser. Et quant à Badiou, c'est très intéressant, Badiou, mais pas sur les aspects politiques, pour moi, parce que c'est une espèce de ressassement de conception du marxisme, qui, à mon avis, tout à fait dépassé. Je ne dis pas du tout que Marx est dépassé, mais je dis qu'une certaine lecture de Marx est totalement dépassée. Non, moi, je ne crois pas à cette façon de faire de la philosophie. D'abord, pour moi, la philosophie est entièrement politique. Par exemple, lorsque Emmanuel Kant écrit la critique de la raison pure, c'est de la philosophie politique, parce que c'est une... Dire il y a des limites à la raison, il faut travailler sur une critique des limites de la raison, c'est déjà une façon politique de raisonner. D'ailleurs, ça se voit très très bien dans ce qu'il écrit dans la revue de Berlin à la réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» hein, c'est lumineux, c'est le cas de le dire, de voir à quel point le travail qu'il a fait sur la critique de la raison, c'est un travail politique en réalité, puisqu'il explique que les Lumières, c'est en fait la manière de doter tous les citoyens qui sont à l'époque les sujets de Frédéric de Truss, d'un droit à la critique. D'un droit à la critique. Et non seulement d'un droit, mais d'un devoir de critique. Et pour moi, la philosophie est intrinsèquement critique de part en part, même quand je fais de la philosophie des sciences ou de la philosophie de la technique, je suis dans la politique. Maintenant, je crois que aujourd'hui, si vous voulez, les questions de philosophie politique ne se posent pas de la même manière selon les époques. Il est évident que la philosophie politique, pour Platon, ça n'est pas la même question que pour Kant, ça n'est pas la même question que pour Marx, que pour Nietzsche, que pour nous à notre époque. Pourquoi ? Eh bien précisément parce que les questions politiques et philosophiques sont absolument liées à ce que j'appelle parfois les hypomnémata, ou les rétentions tertiaires, c'est-à-dire les réalités techniques. Par exemple, Platon se met à faire de la philosophie pour lutter contre une certaine façon que les sophistes ont d'utiliser la technique de l'écriture presque, on pourrait dire, exploiter le temps de cerveau disponible des jeunes Athéniens. Hein. C'est pas... Bon. Alors vous allez me dire, on retrouve là une question du XXe siècle, du XXIe siècle, à l'époque de Platon. Oui, mais on la trouve dans l'écriture, pas dans la télévision. Et si on n'analyse pas les techniques de très très près pour voir comment se posent les problèmes politiques, on n'y comprend rien. Là où Marx est extrêmement important, il est très important pour toutes sortes de raisons, il faut le relire tout à fait autrement que la manière dont les marxistes l'ont lu, à mon avis, mais moi je le lis beaucoup, je le cite beaucoup, c'est qu'il aborde la question de la technique industrielle. Marx est le premier grand penseur de la société industrielle. Simplement, il pense la société industrielle du XXe siècle et de la machine à vapeur. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, il s'est produit entre Marx et nous le XXe siècle, je disais, c'est le XIXe siècle, Marx, bien sûr, hein. Il s'est produit le 20e siècle, qui était le siècle de Ford, que Marx n'a pas vu venir. Et nous, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, qui n'est plus du tout celui de Ford. Et nous sommes dans tout à fait autre chose. Mener des combats politiques aujourd'hui, c'est penser à nouveau frais et de manière intégrée la science, l'esthétique, la métaphysique et toutes ces choses-là, mais toujours au service de la transformation du monde. Les philosophes ne travaillent que pour ça. S'ils ne travaillent pas pour ça, ils travaillent, n'ont aucun intérêt. Et ce ne sont pas des philosophes, ce sont des historiens de la philosophie. Il y en a plein, il n'y a pratiquement que ça, malheureusement. Mais il n'y a pas que ça, quand même, il y en a quelques autres. Il y en a quelques-uns qui font autre chose que ça, et qui sont des gens qui essayent de penser la transformation du monde.
Alors, j'aimerais revenir à ce livre, Le design de nos existences, que vous dirigez, parce que j'ai pas l'impression que ce soit un livre de combat mineur. Pas du tout. Quelle est du coup, justement, la possibilité d'avoir un combat par ce livre, Le design?
Pardonnez-moi, j'ai pas bien compris la question.
En fait, avec ce livre, Le design, j'ai l'impression d'avoir entre les mains un livre de combat, effectivement, politique. Ce que vous disiez, comment ce livre peut permettre ce combat en essayant de...
Ah oui, d'accord, je comprends.
Comment ce livre sur le design est engagé? Parce que, juste comme ça, d'un premier coup d'œil, trop rapide, on pourrait se dire, bon, c'est un livre qui parle avant tout de technique. Or, il n'en est rien. C'est un livre, effectivement, politique, qui veut faire changer des éléments.
Mais en fait, c'est un livre d'économie politique. C'est un livre d'économie politique. Moi, j'ai fait des cours pendant un an à l'École des arts décoratifs de Paris, pas seulement pour des designers, hein, pour toute la promotion de la troisième année, donc tous les étudiants, mais il y avait beaucoup de designers, bien sûr. Et j'ai commencé mon cours en disant, je vais partir du design comme exemple pour moi. En fait, le design, c'est la meilleure manière de comprendre ce que c'est que l'art, aujourd'hui. Je pense que tout artiste est une sorte de designer, de concepteur, de façonneur, de transformateur de mode de vie. Lorsque Harald Zeman, par exemple, a créé cette exposition de la Documenta, où il posait la question des attitudes, de l'art comme attitude, et c'était ça qui était en jeu là-dedans. Je pense que ça, c'est une question d'économie politique. Et qu'aujourd'hui, dans le cours que je faisais aux Arts Déco, c'est ce que je racontais, il faut que les designers se pensent comme des designers d'économie politique, c'est-à-dire des producteurs de nouveaux modèles de mode de vie qui consistent à structurer des nouveaux modèles d'économie politique. C'est très clair, hein, c'est dans ce que je disais tout à l'heure. Moi, je considère que le design, dans les années qui vont venir, de plus en plus va être au cœur de l'invention d'une économie de la contribution, de nouveaux modèles organisationnels au service de la contribution. Et ça, c'est évidemment un combat. Pourquoi est-ce que c'est un combat? Eh bien, parce que vous imaginez bien que les grands acteurs économiques, financiers et industriels qui sont aujourd'hui en place, comme Ford, Chrysler, General Motors, mais aussi TF1 et tant d'autres, que le président Sarkozy veut protéger en leur donnant la manne publicitaire qui appartenait France Télévisions, ces gens-là, ils n'ont pas du tout envie de changer de modèle, parce qu'ils gagnent de l'argent dans le modèle qui existe. Donc, même s'il y a eu la crise de subprimes, même si je crois que Renault a perdu 75% de sa valeur boursière, même si donc leurs propres stock options ont fondu de l'équivalent, il n'empêche qu'ils continuent à gagner de l'argent et tout ça, qu'ils n'ont pas envie du tout de changer. Donc, c'est effectivement, il y a un combat à mener contre un état de fait qui, à mon avis, est tout à fait caduque aujourd'hui, mais qui est maintenant, que tout le monde essaye de maintenir, enfin pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'ils ont peur de l'avenir et ils ont peur de laisser des plumes dans le changement. Par ailleurs, la transformation sociale en question est pleine d'inconnues dans la réalité, en effet, donc elle est très complexe. Et c'est un combat aussi pour lutter contre la crainte des individus d'affronter ces transformations. C'est un combat qui doit se mener de partout. Et là, dans ce numéro, dans cette édition, parce qu'il y a une nouvelle qui va sortir d'ailleurs bientôt, qui sera consacrée aux réseaux sociaux, mais dans cette édition des entretiens du nouveau industriel, nous avons voulu pointer les différents aspects de ce combat. Alors, il y a d'autres aspects dans ce volume, hein, qui sont consacrés aussi, par exemple, aux enjeux de design de ce qu'on appelle les nanotechnologies. avec des interventions extrêmement intéressantes de Xavier Luchet, qui est un épistémologue, spécialiste, philosophe des sciences, donc spécialiste de questions de physique et de nanotechnologie, et Étienne Klein, qui est un physicien, qui parle de cela, qui pose tout ça. Qu'est-ce que c'est que le design au niveau du nanomètre? Voilà, ça, ce sont des questions très très intéressantes. C'est pas seulement des questions liées à l'économie de la contribution. Là, il est évident qu'il y a des enjeux, quoi qu'il en soit, de philosophie politique et aussi de combat extrêmement importants.
Voilà. Et bien voilà, comme ça on est retombé sur nos pattes avec ce livre, Le design de nos existences à l'époque de l'innovation ascendante. Merci infiniment Bernard Stiegler.